Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure et ce soir nous sommes heureux de recevoir Thomas Ostermayer.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du bouddha, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Bicheux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Attention, mise en abîme. Sur la scène d'un théâtre parisien, dans un décor de studio d'enregistrement installé en périphérie de Paris, une comédienne enregistre le commentaire d'un film. Ce film est réalisé d'images multiples, archives ou documents contemporains inspirés du texte de Didier Héribon, « Retour à Reims » paru en 2009. Dans ce texte, l'auteur raconte son retour dans la ville où vit encore sa mère, peu de temps après que son père est mort et des années après sans les avoir vus. Il y développe une pensée à la frontière de la théorie et du récit personnel et réalise combien tout ce qu'il avait écrit auparavant sur la honte sexuelle occultait le poids de la honte sociale qui avait pourtant structuré une partie de son parcours de jeune intellectuel homosexuel et celui de ses deux parents dont il s'était éloigné. L'enregistrement des extraits de ce texte donne lieu à une discussion tripartite entre la comédienne, le réalisateur et l'ingénieur du son, jusqu'à une modification finale du film. Thomas Ostermayer, bonsoir.
Bonsoir.
Votre pièce « Retour à Reims », après avoir été montée en allemand et en anglais, est montée en français. En ce moment, c'est au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin, à Paris, jusqu'au 16 février, puis à Lausanne et en tournée, jusqu'en mai. Et puis on peut aussi dire que votre mise en scène de « La nuit des rois » ou « Tout ce que vous voulez » de William Shakespeare est visible encore en ce moment.
Mm-hmm.
À la Comédie Française à Paris.
Jusqu'à la fin du février.
Faut se presser.
Et on m'a dit que ça va être repris à la rentrée.
Excellente idée. Excellente idée. Il faut aller voir cette mise en scène. Eh bien, on commence par celui qui est un peu au cœur de vos préoccupations dans ce texte et dans cette pièce.
Tu parles des destins sociaux, tu dis qu'on ne peut pas y échapper, des amis m'ont dit ça, mais tu es de l'exemple même du fait qu'on peut y échapper. Mais non, je suis l'exemple, je suis celui qui peut écrire là-dessus, mais si ceux qui ne peuvent pas écrire là-dessus écrivaient là-dessus, ils diraient que le contre-exemple est un contre-exemple sur des millions de gens qui, statistiquement, sont soumis à ce verdict social qui est rendu, je tiens beaucoup à cette idée de verdict, qui est rendu avant même comme une sentence gravée sur le corps, qui se lit d'ailleurs dans les corps, qui est rendu avant même la naissance par le milieu dans lequel on arrive au monde. Et je crois que échapper au verdict social, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Mes parents se sont débattus avec ça. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier, manœuvre au plus bas de l'échelle ouvrière. Ils ont essayé à des moments de reprendre des études en suivant des cours du soir, des choses comme ça. Et on ne fait pas, on ne travaille pas toute la journée en usine en allant ensuite au cours du soir, en espérant monter beaucoup dans les possibilités, enfin accéder beaucoup à des possibilités scolaires, universitaires, de se transformer soi-même. Donc c'était toujours voué à l'échec. Le verdict se rappelait à ceux qui essayaient de lui échapper.
On est en 2009 et Didier Héribon vient de publier « Retour à Reims » aux éditions Fayard, Thomas Ostermayer, et il en parle au micro de Alain Weinstein sur France Culture. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu ce texte-là ?
Oui, oui, je me souviens très très bien. On était 2016, juste après le livre être sorti en Allemagne. Et puis... j'étais très, très touché. J'ai lu le livre par intérêt individuel, privé, quoi. C'était pas du tout prévu que ça soit quelque chose que je vais monter sur scène. Je m'inspire beaucoup des sociologues. C'est très important pour mon travail. D'ailleurs, le travail de Bourdieu, super important pour la lecture des pièces de Ibsen. Alors, j'ai pris ce livre en vacances avec moi en été, j'étais en Grèce, et j'ai En allemand, on dit « j'ai mangé le livre ». Est-ce que, je ne sais pas si on peut dire
on
ça.
On dit même « dévoré » en français.
Oh, j'ai dévoré le livre pendant 2 jours. Et à la fin du livre, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit « tiens, au moins, tu n'es pas tout seul ».
Qu'est-ce qui sonnait dans ce livre-là, sans rentrer dans des considérations privées, mais à la fois, qu'est-ce qui vous a fait le choisir, au milieu de plein d'autres lectures possibles contemporaines à emmener en Grèce en vacances? Et d'autre part, qu'est-ce qui fait que la lecture va vite et qu'elle vous fait vous sentir moins seul?
D'abord, puisque j'ai lu un critique dans un journal, je me suis dit, tiens, ça a à voir avec ton propre histoire, avec tes propres origines. Après, la lecture... quand il décrit le fait qu'il arrive dans les grandes villes, dans un milieu intellectuel, artistique, qu'il faut apprendre un certain comportement, qu'il faut faire connaître ou savoir certaines lois de la culture, de la communication, du comportement, tout ça j'ai vécu moi-même et aussi... à la maison, chez moi, mes parents, c'était plutôt un milieu très modeste, pas si modeste comme le milieu de Didier, mais je dirais la petite bourgeoisie avec la violence à la maison, avec l'alcoolisme de mon père. Tout ça a résonné avec le livre de Didier.
Vous fermez le livre, vous êtes touché. Vous êtes touché aussi, j'imagine, parce que je le décris en introduction, ce n'est pas un livre qui est uniquement théorique, c'est un livre qui est vraiment à la frontière entre le récit personnel, voire intime, et des imbrications de pensée, et même de retour, c'est-à-dire c'est un processus de retour qui n'est pas qu'un retour géographique, c'est aussi un retour sur la manière dont lui, il a exprimé sa pensée jusqu'à maintenant, et qui était principalement centré sur la honte sexuelle. Donc vous vous dites, super intéressant, est-ce que tout de suite vient l'option du théâtre?
Non, pas du tout. D'abord, parce que je passe mes vacances chaque été avec des Français. D'abord, j'ai dit à Ludovic, qui était avec moi, Ludovic Lagarde, qui était le directeur de la Comédie de Reims, est-ce que tu as lu ce livre? Ah oui, j'ai entendu parler, ça doit être intéressant, mais j'ai jamais lu. Ensuite, un autre copain à moi, Christian Longchamp, qui est dramaturge à l'Opéra, non plus. Alors moi, j'étais le premier dans notre petite colonie de vacances franco-allemand à lire ce texte. Et je voulais absolument qu'il lise. Heureusement, j'ai eu avec moi une version française. Et après, on a discuté ce livre. Mais jamais j'ai eu dans la tête de monter ça. L'idée de monter et de faire quelque chose pour la scène, c'était arrivé à la rentrée. Nina Hoss était aux États-Unis.
Qui est la comédienne avec laquelle vous travaillez à la Schaubühne.
Oui, qui a fait la première version anglaise et allemande. Elle était aux États-Unis, elle était en train de pour la captation de Homeland. Alors elle a passé toute la rentrée là-bas et c'était le moment de la campagne et de l'élection de Trump. Et puis on était tous les deux très inquiets par rapport à ça, mais il y a aussi à l'époque et encore aujourd'hui, il y a aussi la montée du populisme en Europe, en France, en Allemagne. La montée de l'extrême droite. Alors on s'est dit, tiens, il faut faire quelque chose là-dessus, il faut prendre position par rapport à ça, étant artiste, étant des gens qui font du théâtre. Et je lui ai proposé, est-ce que tu veux pas que je t'envoie ce livre et tu lis ça, et puis peut-être qu'on peut discuter de ça, parce que, à mon avis, l'analyse des Ribans explique beaucoup de choses sur la montée de l'extrême droite. Elle aussi, elle était bouleversée par la lecture. Et puis après, j'ai rencontré Didier et j'ai commencé à imaginer une mise en scène de ce texte.
Quelles étaient vos questions au départ? Puisque, évidemment, la passation d'un texte qui n'est pas purement théâtral à la scène de théâtre, elle pose plein de questions, y compris quand il s'agit de textes romanesques. Est-ce que vous aviez des questions comme ça au départ insolubles, Thomas Ostermayer?
Oui, tout à fait, parce que je pouvais pas m'imaginer de monter ces textes dans une façon, il y aura un acteur qui joue Didier, il y aura une actrice qui joue la mère de Didier, il y a un acteur qui joue le père. C'était inimaginable.
Pourquoi?
Parce que ce sont pas des dialogues. Ça commence comme un journal intime, très intime d'ailleurs. Alors, au pire des cas, c'est un monologue, mais pas une situation scénique avec des dialogues. Sinon, on aurait dû inventer beaucoup de dialogues, on aurait dû inventer toute une situation théâtrale, mais dans ce cas-là, on aurait risqué de perdre toute la pensée sociologue, philosophe, qui est la deuxième couche du livre, qui est super important et qui fait la force de ce livre. Et moi, je pense la force de ce livre, c'est le fait qu'il y a à la fois ce récit personnel de Didier, très intime, alors quelqu'un qui fait une sorte de confession sur lui-même. Et après, à partir de ça, parce qu'il se pose des questions par rapport à sa famille, par rapport à son passé à lui, d'un coup, il révèle, est-ce qu'on peut dire ça en français, révéler? Oui.
Oui.
Oui. Il révèle une analyse qui dit il y a un lien entre la corruption de la gauche, des élites de la gauche et la montée de l'extrême droite. Et ça, c'est pour moi, sont les deux choses les plus importantes. Et pour ça, je cherchais et assez vite trouvais. Ou assez vite, j'ai eu l'idée de faire ça avec une documentaire. Alors la deuxième difficulté était convaincre Didier à participer à ce film documentaire.
Et quels arguments vous avez avancés?
Ah ben, la plus grand problème, c'était que il pouvait pas du tout s'imaginer de visiter sa mère avec une équipe, avec des caméras. Il ne voulait pas voir lui-même avec sa mère sur l'écran, que je peux très très bien comprendre. Et puis c'était Geoffroy de la Gannerie qui a dit, mais écoute, Didier, t'as écrit un livre sur la honte, c'est la honte sociale, t'as essayé de
Donc pour resituer, hein, c'est un auteur, essayiste, intellectuel, compagnon de route de Didier Héribon.
Tout à fait. Tu as proposé de dépasser cette honte sociale. Alors fais maintenant le dernier pas qui est ne pas avoir honte de te voir toi-même sur l'écran avec ta mère.
Et ça passe par des images que vous réalisez avec votre équipe Thomas Ostermayer, où vous suivez non seulement Didier Héribon dans plusieurs travelling de train, de trajet en train, puis de café partagé avec sa mère, autour de photographies notamment. Et vous allez peut-être même, vous faites un geste peut-être même qui va plus loin que le texte Didier Héribon, c'est-à-dire non seulement vous montrez des images de lui et sa mère, ce que ne fait évidemment pas la littérature par la suggestion, mais vous filmez le corps de la mère de près. Vous filmez ses bras, vous filmez ses jambes. On l'entendait à l'instant dans sa voix, le corps comme lieu de marquage de la vie sociale et notamment de la vie ouvrière. Comment vous avez décidé ça?
Ah bah, moi,
de vous approcher si près.
Au moment où j'ai proposé de filmer chez sa mère, je ne savais pas du tout. Je ne savais rien sur le corps de sa mère.
Sinon, ce qu'il en dit dans ses propres lignes, qu'il est abîmé par le temps, par le travail, par l'usure.
Moi, j'ai fait attention dans le montage des images. On commence avec les mains, avec le visage. Alors, on ne s'approche pas avec un total où tout de suite on voit les blessures. Mais j'espère qu'on s'approchait avec un certain tendresse à cette femme.
La négociation avec Didier Héribon de se voir à l'image avec lui comme un dépassement de la honte a été quelque chose qui a opéré pour lui de manière intime. Ça a marché?
Pendant les captations, pendant les tournages, il était très ému déjà dans le train. On a fait un premier retour à Reims avec lui sans caméra. On a rencontré tous les gens, sa mère, les lieux. On ne voulait pas filmer parce que c'était trop... Ça aurait été trop agressif de tout de suite filmer ce retour. Et puis on est revenu une deuxième fois avec la caméra et c'était assez douloureux, je dirais même.
Et difficile à faire?
Difficile à faire parce
non,
que...
Non, ouais.
Parce que Didier était ému. Et on a vu pendant tout le temps que pour lui, c'est difficile. Il a troublé. C'est pas quelqu'un qui est forcément content d'être devant un camarade. Le contraire. Et puis, j'ai eu la chance que mon vidéaste, avec qui je travaille depuis plus que 10 ans, 12 ans, il est français, il est parisien, il est déménagé à un certain moment en Allemagne, à Berlin. Mais ça a beaucoup aidé qu'il y avait Sébastien Dupuy, qui était le réalisateur du film, qui a fait la caméra avec un deuxième opérateur de caméra. Alors c'était bien d'avoir lui. Ouais, c'était exigeant, disons.
Donc il y a ce film qui est une première partie consacrée à ce retour que vous filmez, Thomas Ostermayer, et nous le voyons. Peut-être il est temps de parler de ce dispositif que vous choisissez. Sur scène, vous figurez un studio d'enregistrement assez beau, qui où il y a un pupitre où la comédienne s'assoit pour lire, et puis une régie comme ici avec le réalisateur et l'ingénieur du son.
Je me suis dit quand je suis arrivé, je suis chez moi.
Pareil quand je suis arrivé au théâtre. qu'est-ce que vous permettez cette espèce de mise en abîme au carré, c'est-à-dire à la fois je vais faire un film à partir du texte de Didier Ribon. Mais je ne vais pas juste montrer un film, ça va être un film en train de se faire, avec, avec l'enregistrement de cette voix off, et donc l'intervention de trois personnes.
Ça m'a permis de, à la fois, ne pas livrer un film prêt, qui dit ce que je veux dire, mais un film qui est, tout le temps, mis en question. Les décisions qu'on prend pour les montages des images, les décisions qu'on prend pour l'adaptation du livre, et même à la fin, quand le film se termine, la deuxième partie du film, elle le met en question, elle dit, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre fin? Tiens, il y a un autre bout du texte que je préfère, ou que je préférais. Et aussi, ça me permet, parce que la première partie du film, après la première partie du film, ils se mettent à discuter, à disputer même. Et ça m'a permis que lui revient, le réalisateur, après une semaine, en disant, tiens, j'ai changé tout. Il n'y a plus de ribbons dans les films. J'ai travaillé que avec des images d'archives. Et c'est aussi une autre façon de monter les images. La deuxième partie du film a un autre rythme, à une autre température, je dirais. Alors, je propose différentes façons à traiter ce sujet, et ça fait aussi, bien évidemment, que je ne suis pas obligé à prendre une décision ou un point de vue à 100%, à pas à 100% donner mon opinion à moi, mais plutôt se demander comment faire de l'art engagé aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas être plus militant? Est-ce qu'il ne faut pas être plus engagé? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de faire de la littérature, du théâtre, du film, et être dans la rue avec les gens, comme Sartre était en 68? Alors, toutes les questions qui sont à l'intérieur de moi, ça m'a permis de traiter toutes les questions sur scène.
Parce que peut-être votre opinion à vous n'est pas définitive?
Pas du tout. Je sens une certaine obligation d'être très très engagé, parce qu'on vit des temps affreux, très difficiles, très dangereux. J'ai beaucoup d'amis en Pologne, en Hongrie, en Russie. Un de mes meilleurs amis, Kirill Serebrennikov, va peut-être aller pendant 10 ans en prison en Russie. La dernière fois que je lui ai vu à Moscou, je lui ai demandé comment ça va. Il m'a dit « The question is if I missed the last train ». La question, est-ce que j'ai raté le dernier train pour partir de la Russie avant que je sois mis en prison. Jan Klata, un grand metteur en scène et directeur du théâtre à Krakow, a perdu son poste grâce au gouvernement. En Pologne.
À cause
de la situation de ce gouvernement. L'Hongrie. Alors, tout ça, c'est pas seulement une question où va le monde, mais c'est aussi une question, est-ce qu'on peut continuer à travailler?
Quand vous dites, Thomas Ostermayer, que l'une des questions qui vous agite dans ce travail, c'est savoir si on peut faire un geste engagé qui ne soit plus du théâtre, il y a une petite phrase qui nous est adressée à nous toutes et tous qui sommes réunis. C'est une phrase que prononce Irène Jacob, qui interprète la comédienne. Nous ne sommes pas au théâtre. Ah oui, heureusement. Petit sourire que vous vous adressez à vous-même, que vous nous adressez. Petit sourire qui dit quoi?
Qui dit... On déteste le théâtre et on aime le théâtre.
C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez, très paradoxale, Thomas Ostermayer.
Oui, moi je déteste le théâtre.
Ouais. C'est con parce que vous y passez quand même beaucoup de temps.
Oui, c'est terrible.
Qu'est-ce qui vous fait le détester comme ça?
Parce que la plupart du théâtre que je vois, et même dans mes propres travaux...
J'allais dire, vous détestez votre propre théâtre aussi?
De temps en temps, oui, oui, beaucoup. Je déteste parce que c'est les lieux de la vanité.
Vous êtes bien embarrassé quand même quand vous montez... Non mais je veux dire, quand vous montez Retour à Reims, qui critique par exemple la culture et l'art comme l'un des moyens de la bourgeoisie pour se définir elle-même et pour opprimer la classe qui serait une classe dominée, vous vous retrouvez en plein Paris, Espace Cardin, Théâtre de la Ville, tout est là.
Mais je suis...
Tout est brillant,
oui,
tout est parfait.
Oui, mais je suis assez content qu'une grande partie de critiques ne sont pas d'accord avec la mise en scène.
Et ça vous rassure.
Ça me rassure. Je crois que ça a à voir un peu... Avec les passages pareils.
Avec quoi?
Avec les passages que vous venez de citer.
Ah, vous voulez dire que le miroir qui est tendu à cette bourgeoisie intellectuelle et culturelle est trop désagréable?
J'espère. Mais je dis très ouvertement que je fais partie de ça. Je ne dis pas que moi je suis meilleur. Je suis bien Mais il faut être conscient qu'on fait partie de ça. Et moi, depuis... quelques ans, dans les interviews, je dis toujours, j'ai fait du théâtre pour une public bourgeois. On ne peut pas empêcher de faire pour une public bourgeois parce qu'on n'est pas arrivé à une époque où la classe populaire souhaite aller au théâtre.
Mais parce que ça veut dire que vous faites du théâtre avec la conscience que votre public est bourgeois,
voilà.
Avec la conscience que vous vous adressez à ce public-là?
Oui, ça veut dire ça. Tout à fait.
Et ça génère des choix, chez vous, par exemple? Des choix de texte, des choix de mise en scène, cette conscience-là?
De temps en temps, ouais. J'ai commencé, par exemple...
Par exemple, ce sourire de « Nous ne sommes pas au théâtre, et heureusement »
Non, mais les dialogues, pareil, ils arrivent et pendant les répétitions, on les note, on les dit après, et... On sent qu'il y a une certaine vérité dedans, mais on ne peut pas dire à 100% pourquoi. Ça fait rire. Pourquoi? Mais ça fait rire, alors on laisse. Alors, il y a toujours aussi une certaine ouverture pour l'interprétation. Il n'y a pas une seule interprétation. Et surtout, quand on travaille comme auteur, qui est le cas là pour les scènes entre le réalisateur, l'ingénieur du son et l'actrice, la comédienne, parfois le texte est beaucoup plus intelligent que l'auteur.
Alors. Bon, on va l'écouter.
Est-il possible de parler d'une guerre implacable menée par la société dans le fonctionnement le plus banal de ses mécanismes les plus ordinaires, par la bourgeoisie, par les classes dominantes, par un ennemi invisible, ou trop visible, contre les classes populaires en général. Il suffit de regarder les statistiques de la population carcérale en France ou en Europe pour s'en convaincre. Les chiffres seraient éloquents, qui indiqueraient la sinistre probabilité pour les jeunes hommes des banlieues déshéritées, et notamment ceux qu'on définit comme issus de l'immigration, de se retrouver derrière les barreaux. Et il ne serait pas exagéré de décrire les cités autour des villes françaises aujourd'hui comme le théâtre d'une guerre civile larvée. La situation de ces ghettos urbains montre à l'envi comment on traite certaines catégories de la population, comment on les repousse aux marges de la vie sociale et politique, comment on les réduit à la pauvreté, à la précarité, à l'absence d'avenir. Et les grandes révoltes qui embrasent à intervalles réguliers ces quartiers ne sont que la condensation soudaine d'une multitude de batailles fragmentaires dont le grondement ne s'éteint jamais.
Thomas Ostermayer, c'est Romain de Bec de Lièvre qui lit un extrait du texte de Didier Ribon, Retour à Reims. On est en 2009, on pourrait en effet proposer à l'analyse de revoir ce qui est écrit 10 ans après. Comment avez-vous choisi les morceaux de texte qui sont en effet présents et dits sur scène et qui constituent, dans la mise en abîme, le commentaire du film ?
On a bien évidemment essayé d'avoir les moments les plus importants pour l'analyse. Comment ça se fait que 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on est confronté en Europe avec un montée de l'extrême droite? Alors ça, c'était l'inquiétude principale qui a fait que j'ai choisi ce texte. Alors on a essayé de bien suivre cette ligne de la pensée à l'intérieur du texte de Didier, et un parti qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'il dit sur l'éducation, sur le système scolaire en France, mais aussi dans les autres pays européens, où déjà à la naissance, un poil plus tard, on vit dans une société qui exclut, qui intègre pas, mais qui exclut avec ce système scolaire. Et quand on exclut une belle partie de la société, c'est presque évident que au bout d'un moment, il y a la revanche, il y a un sentiment de revanche de cette partie exclue qui veut se revancher pour le fait qu'ils ne peuvent pas participer à la société, participer pas seulement dans le sens économique, qui est la chose la plus importante. Quand on regarde les textes d'Édouard Louis, pour en finir avec Elie Wiesel, quand il dit que à partir du 15 du mois, ils sont allés pêcher pour avoir de la nourriture parce qu'il y avait plus de fric sur le compte, on voit que ce sont des problèmes très très concrets. Ce ne sont pas des théories de philosophes ou des penseurs à la gauche. Non, ce sont des problèmes concrets qui s'appellent avoir faim. Et voilà, ça c'est un parti de l'exclusion, mais il y a aussi plusieurs autres parties de l'exclusion, parce que aussi je crois que c'est aussi une question de représentation. Alors une question, est-ce que ma classe, est-ce que je me sens représenté dans les parlements, dans les gouvernements? Est-ce que je vois des gens qui n'ont pas fait le bac, qui n'ont pas fait les grandes écoles? Est-ce que je les vois sur l'écran le soirée quand je regarde les actualités? Est-ce que j'entends les gens parler dans ma propre langage, qui n'est pas le langage des politiques bien éduqués qui parlent, et où moi j'ai l'impression que je n'appartiens pas à ce milieu? D'ailleurs, je crois que c'est un des points pour le succès de Gilets jaunes, parce que d'un coup, on entend des nouveaux voix, et d'un coup, on entend un langage qui est beaucoup moins... qui cache beaucoup moins, qui parle concrète. Et aussi, c'est une question, un problème de représentation dans les arts dramatiques, dans les cinémas, dans la littérature, dans les arts plastiques, je me vois à la télévision représenté avec mes propres problèmes. En Allemagne, on a cette tradition de talk show l'après-midi. Là, on voit quelques membres de la classe populaire, mais ce sont toujours des membres de la classe populaire
qui sont une sorte d'exagération. C'est un peu comme au zoo, les gens alcooliques, les gens qui sont violents. Alors, toujours des exagérations, comme si la classe populaire existe est constituée de monstres. Mais je vois mal des films, des pièces de théâtre, des téléséries où cette réalité d'une certaine classe populaire est représentée sur l'écran ou sur une scène.
C'est pour ça, Thomas Ostermayer, que vous choisissez que l'ingénieur du son soit noir, qu'il vive en périphérie des villes et qu'il fasse du rap?
Ben, qu'il fait du rap, c'est un hasard. C'est un hasard qui fait que on a au bout d'un moment un moment de musique qui est assez bien. Hier j'étais dans la salle à nouveau en regardant le spectacle. Il y avait pas mal de jeunes dans la salle et je me suis rendu compte que au moment où les deux chansons, les deux pièces de rap sont arrivées, ils étaient à 100% avec le spectacle à partir de ce moment-là. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ce effet-là. C'était juste parce que j'ai rencontré, quand j'ai fait le film à Manchester, parce qu'une certaine partie des films des images dans les films sont tournées à Manchester, parce que c'était une coproduction avec Manchester. Je voulais avoir aussi cette réalité de l'Angleterre dans le film. J'ai rencontré un monsieur qui m'a guidé sur les quartiers ouvriers à Manchester. Et c'était un jeune, deuxième génération de Libye, Ali, qui m'a raconté qu'à l'âge de 32 ans, après avoir vécu dans la rue pendant 10 ans, il a commencé à faire du théâtre. Et il a commencé à faire une école de théâtre. Et il m'a dit, il a détesté ça parce qu'il était avec que des bourgeois. Et sa classe d'où il vient n'est pas représentée dans les écoles de théâtre et il a marre de ça. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est mon mec, il faut qu'il ait dans les spectacles. Alors au début, ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait un ingénieur du son. Au début, c'était juste le réalisateur avec l'actrice. Mais puisque j'ai rencontré ce monsieur à Manchester, je me suis dit, tiens, il faut rajouter une troisième personnage.
Mais un des enjeux de la puissance de représentation dont vous parlez, Thomas Ostermayer, est de l'absence de représentation de certaines classes ou de certains corps qui se posent aussi pour la danse, pour le spectacle vivant. Enfin bref, la visibilité, si on parle de manière générale, c'est aussi des enjeux de transformation. Et aussi la possibilité de simplement pouvoir se visualiser, pouvoir être représenté dans une autre position sociale, dans un autre vécu, dans un autre parcours que celui qui est ou bien le sien, ou bien celui de ses parents ou de ses grands-parents. Vous faites le choix que pendant la quasi-totalité de la pièce, les places soient bien gardées. Que chacun soit bien à sa place et que l'ingé son qui dispose de ce studio en banlieue soit noir et un homme, que la comédienne soit parisienne et bourgeoise et que le réalisateur discute principalement avec la comédienne.
Pas forcément, parce que l'ingénieur du son est malgré tout le propriétaire du studio.
Et il y a un jeu là-dessus de discussion en effet sur le fait qu'il dispose du moyen de prod.
Tout à fait. Et moi, je trouve ça assez drôle que les deux, qui appartiennent à la classe bourgeois parisien au centre-ville, sont dépendants de la bien-volonté de ce monsieur qui est le propriétaire du studio. Alors, c'est pas à 100% la représentation des choses comme ils sont.
France Culture, par le temps qui court. Marie Richeux avec Thomas Ostermayer.
À la cime du Kilimandjaro, je demeure anonyme, fragile. Au-delà de l'apaisement, je ne tiens que sur un fil. Au lointain se plongent mes songes, pleurent en silence. Un descendant sûrement ira noyer ma repentance. La clarté de l'eau trouble équivaut à la politique. Des pions que l'Occident place à des fins stratégiques. sans endroit ni envers. Au diable votre ignorance, ils ont mis le feu au ciel en omettant les conséquences. Décline sur les montagnes, des lunes qui titubent. Et quand la brume se dissipe, des cadavres jaillissent en inculte. N'ayant plus à cœur leurs dirigeants, leur vacuité, je suis le soir de l'histoire qui n'avance que pour la paix. Souillé des plaines sacrées en espérant faire des exemples, ils n'ont que sang, larmes, sueur, pas la leur, celle du peuple. Vous demandez à comprendre, et pas le nègre, il t'emmerde. Je retourne aux vieilles brousses où les hommes sont intègres. Après des gorgées d'arsenic, j'ai régurgité de l'or noir. Je suis né d'une larme à la barre des conquistadors. Tant féroce les écorces sont de peine. J'attends la cohésion de la diaspora pour libérer mes chaînes. Des faces noires brusquées à tort, jugées austères. Mais chaque hiver depuis 54 témoigne de vos chimères. À leur dire terre-mère est inhospitalière. À la faveur de leur doute, je m'en remets à l'abbé Pierre. L'horizon se dérobe en solstice. Saisonnier, des voix s'élèvent du passé. C'est dans ma poitrine qu'elles ont résonné. Mon assiduité apache, vos préceptes iconoclastes n'ont pas eu lieu d'être. Là où fière ma raison résiste. Au crépuscule de l'aube aux portes de nos royaumes. Des lucioles en guise de lanterne, de la terre rouge serrée dans ma paume. Paupières closes pour voir au mieux les prestiges. Vertis en contingent, ils ont pillé nos vestiges.
C'est un morceau qui s'appelle L'ombre d'un rêve et qui est donc signé Blades Alimbay. Thomas Ostermayer, c'est pas le morceau qu'il interprète sur scène, puisqu'on a l'impression que c'est un morceau qui a plutôt été créé. Deux morceaux qui ont plutôt été créés exprès pour votre pièce Retour à Reims. Vous disiez au départ, il n'était pas question qui est ce personnage-là, cet homme noir, ingénieur du son, qui en fait va transformer le cours des choses. Ça veut dire que vous-même, vous avez été surpris de la manière dont ce personnage est entré dans votre mise en scène de Retour à Reims et de la manière dont il vient à un moment donné, bon tant pis, on dévoile le truc, mais il vient remplacer la femme comédienne blanche pour prendre à part un nouveau récit et raconter autre chose.
Tout à fait, et c'est grâce au fait que j'ai rencontré Blade pendant les auditions, et après deux phrases de dialogue qu'on a échangé, il m'a raconté, il a commencé à me raconter cette histoire de son grand-père, qui était tirailleur sénégalais, et parce que j'adore ce qu'il fait musicalement, j'adore l'artiste Blade, je me suis dit, mais tiens, avec cette histoire pareille et la musique qu'il fait, il est parfait, c'est un rêve d'avoir trouvé cet artiste. Et en plus, ce parti-là, il n'était pas du tout dans la version allemande. Dans la version allemande, c'est Nina, c'est l'actrice, qui raconte l'histoire. De son père, qui était un fondateur de Verts, qui était un communiste, qui était dans le parlement pour
Willy Ross.
Voilà. Et puis, j'étais très, très content d'avoir trouvé quelqu'un avec cette histoire qui donne, au bout d'un moment, toute une autre perspective sur la situation en Europe post-coloniale, avec des histoires qui ne sont pas forcément très connues.
J'imagine que c'est difficile de changer son fusil d'épaule trop rapidement quand des productions théâtrales sont engagées, mais est-ce que vous vous êtes pas dit dans ces cas-là, poussons le geste jusqu'au bout, et c'est ça qu'il faut monter comme pièce? C'est l'histoire de ces jeunes gens qui racontent l'histoire de leur grand-père, l'enrôlement forcé dans l'armée française, et en fait, se dire que le geste d'après la publication Didier Héribon n'est pas nécessairement de relire Héribon, mais de procéder en acte.
Je suis déjà en train de imaginer des autres, une sorte de suite de cet projet, et on verra.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire suspense? Ça veut dire que c'était pas possible de le faire sur le moment, que vous y avez pensé? Ou ça veut dire que juste une chose après l'autre, Thomas Ostermayer?
Non, une chose après l'autre. une chose après l'autre. Là, c'était l'importance pour moi était de retourner avec Retour à Reims en France. Et moi, j'étais bouleversé du fait d'être sur les Champs-Élysées, du fait d'être obligé de traverser les barrières pour arriver au travail.
Parce que l'espace Cardin, il faut le rappeler, a été aussi régulièrement fermé au public au moment des manifestations, extrêmement sécurisé.
Voilà. Voilà,
au moment où il y avait les représentations théâtrales, c'était dans une certaine ambiance.
Des représentations du samedi qui étaient annulées. Tout le monde se demande c'est quoi ce mouvement.
Et les gilets jaunes.
Je pense que il y a une sorte d'explication dans le texte de Didier. Alors,
Que vous dites l'impasse qui est que ces gens-là ne viendront pas au théâtre pour la voir, cette pièce.
Oui, mais la pièce parle de l'échec de la gauche, des élites, des
privilégiés. Et qu'eux sont là.
Eux sont là.
Et vous étiez bien au moment de la première, ça va, c'était confortable pour vous d'avoir toute la bourgeoisie intellectuelle et artistique parisienne dans la salle.
Parler des choses pareilles, ça ne veut pas dire qu'il faut parler jusqu'à sa classe d'où on vient. Hein. Parce que le problème de la domination, c'est qu'il y a une classe qui domine et une autre qui est dominée. Et je pense de temps en temps, c'est peut-être encore plus important à parler à ceux qui dominent.
Et il faut, j'espère que le théâtre est envisagé de cette manière-là, que ce soit un lieu de discussion. Vous la mettez en scène, cette discussion, puisque vous le disiez, vous discutez à la fois le montage du texte, mais aussi les choix des textes qui sont gardés dans le commentaire.
Tony, coupe le son un moment, s'il te plaît. On reprend l'enregistrement de ce passage plus tard.
Regarde, Paul, j'ai ce passage-là. Je trouve pas qu'il manque quelque chose si on coupe ça. Moi, je trouve qu'il faut que tu gardes ça.
Mais oui, mais ça, il l'explique plus tard. Où est le problème?
Oui, mais ça, tu l'as pas gardé.
Qu'est-ce que j'ai pas gardé?
Ça continue par « Je sais que l'on va m'accuser de tomber dans une théorie du complot social, en dotant les institutions de fonctions souterraines et même d'intentions maléfiques. » Si tu coupes ça et la suite, plus personne va comprendre ce qu'il veut dire. Et puis pourquoi est-ce qu'il en vient à parler de guerre?
Ouais, mais je voulais pas garder la notion de théorie du complot. Parce que dès qu'on parle de théorie du complot, on est fichu. Tu vois, c'est comme quand quelqu'un te dit que George Bush se cache derrière le 11 septembre. Là, il y a plus personne qui te prend au sérieux. Voilà. Je pensais qu'on rendait service à Héribon en supprimant ça.
Mais Héribon, il le relativise lui-même après. Là, ça donne un peu l'impression que tu veux le censurer.
Non, je veux pas censurer Didier Héribon. Mais vas-y, dis-moi un peu ce qu'il écrit après.
Et il s'en explique après à propos de Bourdieu. Regarde, c'est ce que Bourdieu reprochait précisément à la notion althussérienne d'un appareil idéologique d'État. Elle tend à penser dans les termes d'un fonctionnalisme du pire. Un appareil d'État, écrit Bourdieu, ce serait une machine infernale, programmée pour atteindre certains buts. Ajoutant que ce fantasme du complot, l'idée qu'une volonté démoniaque est responsable de tout ce qui se passe dans le monde social, hante la pensée critique.
Exactement, donc Bourdieu me donne raison sur le principe. Il dit que les théories complotistes sont des fantasmes.
Oui, mais quand même, si tu supprimes la suite, tu prives le spectateur de la possibilité d'y réfléchir. Et même si c'est un reproche fondamental qu'on peut faire à la pensée de gauche, et encore c'est pas clair pour tout le monde, mais tu empêches que le spectateur ait la possibilité d'y réfléchir. Et puis peut-être que c'est vrai après tout.
Quoi? Attends, tu veux dire qu'il y a une volonté démoniaque ou une intention maléfique qui se cache derrière tout ça?
Attention maléfique.
Qu'est-ce que tu veux dire là? Vas-y.
Bon, attention maléfique peut-être pas, ça fait un peu exagéré, mais je pense qu'il y a des forces obscures qui ont beaucoup de pouvoir. Je veux dire, certaines théories du complot comportent une part de vérité, non, tu crois pas? Même Noam Chomsky le dit.
alors là, s'il lui dit ça... Non mais attends, sérieusement, tu veux pas dire qu'il y a des forces obscures qui se cachent derrière l'ordre dans lequel nous vivons? Je veux dire, ça fait un peu Harry Potter quand même, non? Là, non? Tu trouves pas?
Je pense qu'il y a des gens, des groupes, des think tanks, des lobbyistes qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, qui n'en ont pas... Enfin, ils n'ont pas d'autres préoccupations que la façon dont ils peuvent rester au pouvoir. Et ils n'en ont rien à faire qu'une classe inférieure sans instruction. Au contraire, ils veulent que ça reste dans l'État. Je le pense, oui. Alors peut-être qu'on peut appeler ça une puissance maléfique.
Irène Jacob et Eric Eckhout dans votre mise en scène de Retour à Reims de Didier Ribon en ce moment à l'Espace Cardin Théâtre de la Ville, Thomas Ostermayer. Ces questions, ces débats sur ce qu'on garde pas du texte, sur la portée du texte, sur en fait une forme d'éclaircissement ou discussion de la pensée de Didier Ribon, ce sont lesquels ? Ce sont les vôtres ? Ce sont des dialogues que vous avez eus avec les comédiens ? Ce sont des dialogues que vous avez eus avec Ribon lui-même, vous avec vous-même ? Qu'est-ce qu'on entend ?
Non mais là, ce bout qu'on vient d'entendre, ça c'était dès les débuts dans l'adaptation. Alors quand je travaillais sur l'adaptation avec mon dramaturge Florian Borchmeier, je lui ai dit, tiens, là, il y aurait un moment où on pourrait interrompre le film et mettre en question, parce que lui-même, dans le texte, Didier se met en question dans la pensée, alors la pensée althusserienne, la pensée Bourdieu, est-ce qu'il y a dans l'État, dans la société, une sorte de machine qui fait que les gens sont exclus dans le système scolaire? Est-ce qu'il y a une énergie maléfique derrière tout ça? Ou est-ce que c'est seulement un problème des structures? Et je pense que ça, c'est un vrai débat. Parce que, surtout quand on regarde les phénomènes du populisme, le populisme décrit la société comme certaines forces où, par exemple, les journalistes et les politiques collaborent pour exploiter une grande partie de la société, pour raconter des mensonges, pour rester au pouvoir, pour dominer les autres. Et moi, je ne crois pas à ça, et je crois que c'est super important de se battre contre cette théorie de complot.
Notamment parce que ça engage la liberté d'action, et c'est la suite du texte des Ribon, c'est-à-dire considérer que ce sont des choses, des machines qui nous échappent, c'est aussi considérer qu'il n'y a nulle possibilité pour les citoyennes et les citoyens de se placer en face et d'avoir des revendications et de pouvoir et lutter et d'échanger. Justement, pour vous, Thomas Ostermayer, le théâtre, c'est le lieu de ça ? C'est le lieu de la question, de l'action, de pouvoir débattre. Alors là, il se trouve que voilà, c'est un débat qui a lieu entre le réalisateur et la comédienne, mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ?
Là, on est en train de voir deux artistes qui se mettent en question avec leur propre choix, et j'espère que les spectateurs dans la salle comprennent les deux points de vue. Et les deux points de vue, ce ne sont pas les deux points de vue sur une question artistique ou théâtrale, mais c'est une question fondamentale de nos sociétés. Et j'espère que les gens dans la salle se posent la même question. Et se posent la question, est-ce que moi, je n'ai pas la tendance de suivre certaines théories de complot, moi-même? Parce que ça simplifie les choses. Hein, mais peut-être que la réalité est beaucoup plus complexe qu'un simple démon derrière tout ça. Mais il faut aussi dire et avouer, hier, j'étais dans la salle, à la fin du spectacle, il y avait trois spectatrices qui sont allées me voir et les trois étaient en larmes. Alors, moi, j'étais bouleversé parce que, comme vous le dites, c'est plutôt une soirée de la pensée, de se mettre en question, de se situer dans un certain discours. Mais eux, à partir du moment où Irène dit « Et nous ? Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Est-ce qu'il ne faut pas être dans la rue ? Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus engagé actuellement ? Quel monde nous laissons, nous, à nos enfants ?» Derrière nous, qu'est-ce qui se passe dans 3 ans quand il y aura des élections? À partir de ce moment-là, les gens étaient, les trois spectatrices qui se sont allées me voir étaient en larmes. Alors, bizarrement, ça crée des émotions, mais c'est pas des émotions sentimentales ou mélancoliques ou mélodramatiques. Ce sont des sentiments qui ont à voir avec une peur concrète de notre avenir.
À la presque fin, il y a une discussion justement sur la fin où Irène Jacob dit « Ah, on ne peut pas terminer sur un simple renvoi de la responsabilité à la gauche française, c'est trop violent, c'est trop pesant, sur en plus un échiquier, un endroit de l'échiquier politique qui a un peu du mal en ce moment, c'est un peu rude de leur envoyer la balle de cette manière-là. » Et on sent que la question de la responsabilité, vous avez envie de la poser, Thomas Ostermayer, mais du coup je vous la renvoie à vous, metteur en scène, artiste, comment est-ce que vous considérez que votre propre responsabilité de création à avoir avec la politique, avec la manière dont on gère la cité, avec la manière dont on discute, comment le portez-vous sur vos épaules et est-ce que ça vous semble lourd, léger, tranquille, difficile ?
Très lourd, parce que au moment où je suis arrivé à la Schaubühne
à Berlin,
quand je suis devenu directeur de ce théâtre, de cette grande institution, un des premiers décision que j'ai prise, c'était le salaire égal pour tous les artistes et une sorte de démocratie directe de l'ensemble, une participation aux décisions. Et après 2 ans, dans une assemblée générale de cette participation, l'ensemble d'acteurs avec la majorité de 2/3.
Il faut préciser que la Schaubühne fonctionne pas du tout comme la plupart de nos théâtres français, c'est-à-dire il y a une troupe résidente, un peu comme la Comédie française, on peut dire cette manière-là.
Tout à fait. Et puis après 2 ans, ils ont décidé de annuler ce statut du salaire égal.
Pourquoi ?
Parce que un parti de cette salaire égal était aussi que moi, étant metteur en scène, je ne peux pas travailler ailleurs, mais eux non plus. Travailler ailleurs, ça veut dire que je ne pouvais pas travailler en France ou dans des autres théâtres et faire des mises en scène. Et eux, ils ne pouvaient pas faire télévision, cinéma, radio. Et puis, au bout d'un moment, il s'est dit, mais tiens, c'est pas possible, on a beaucoup de propos à tourner des films, à faire de la radio et tout ça. Alors, ils se disent, c'est peut-être mieux d'annuler ça, même s'il y a une grande partie de l'ensemble qui n'a pas de propos de travailler ailleurs. Alors, on a abandonné ça, mais il faut dire que 20 ans avant que cet débat sur le gender pay gap était arrivé au cœur de la discussion en Allemagne.
Qui est traduction ?
Gender pay gap.
La différence de paye entre les femmes et les hommes ?
Voilà. Et puis, nous, à l'époque, tout le monde gagnait la même chose, peu importe que ça soit une femme ou un homme. J'ai appris... J'ai appris beaucoup de choses que je dirais peut-être presque que j'étais un peu trop radical dans tout ce que je voulais installer. Les gens n'étaient pas encore prêts. Peut-être que même aujourd'hui, ils seraient plus à l'aise avec des règles pareilles, avec une nouvelle situation à l'époque. Moi, j'ai installé des lois ou des règles de travail commun, de travailler ensemble, un peu comme à l'époque de 68. Sauf que on n'a pas vécu 68, on a vécu à 2000 quand j'ai installé ces règles.
Donc ça veut dire, Thomas Ostermayer, qu'à la question que je vous pose de la responsabilité de l'artiste dans la cité, vous dites... Elle n'a de sens que si elle s'applique ou commence par s'appliquer à l'enceinte même de son travail et à l'application de règles qui touchent au lieu de travail, aux moyens de production, à l'égalité salariale, etc. Mais du coup, ça veut dire que vous n'entendez pas la responsabilité de l'artiste ou dans un seulement second temps qui serait qu'est-ce que je monte, qu'est-ce que je fais entendre ou comment je le fais entendre. C'est dans cet ordre-là.
Bien évidemment, bien évidemment.
Mais dans cet ordre-là.
Moi, j'ai du mal à croire ou à sentir crédible les gens qui parlent des grandes pièces, qui proposent avec des questions sur le monde, des questions philosophiques, sociales, politiques, et en même temps, dans leur propre
agissement
en profession, ils s'en foutent de questions pareilles. Alors, les deux choses, l'un va avec l'autre. Je ne peux pas, dans le retour à Reims, si je parle des choses qui mettent en question beaucoup des choses dans nos sociétés. Alors, il faut aussi que j'essaye de installer des réformes dans mon propre lieu de travail. Mais en même temps, ça, c'est pas la seule chose que je fais. J'essaie d'être très engagé, mais je crois que la vraie politique ou le vrai changement des sociétés se fait dans la rue. Alors, dès qu'il y a des mouvements importants en Allemagne que je peux soutenir, je suis dans la rue. La dernière fois, c'était avec... avec cette grande manifestation qui s'appelait Unteilbar, qui était au mois d'octobre, Indivisible, qui était une grande manifestation de 250 000 personnes à Berlin contre la haine, contre le racisme, contre la xénophobie, contre la homophobie, contre cette montée de l'extrême droite en Allemagne.
Et comme Retour à Reims parle justement de l'action ou de la question de l'utilité, vous vous sentez, vous, à titre personnel, beaucoup plus utile dans la rue qu'en tant que metteur en scène et directeur d'acteur?
En ce qui concerne des vraies questions urgentes et des sujets, comme je viens de citer, il faut être dans la rue.
Et parfois, vous avez la tentation de ne faire que ça, de n'être qu'à cet endroit-là, où le théâtre que vous détestez et que vous adorez vous manquerait.
S'il y a un vrai mouvement international, et j'espère que, ou je crois même que ça va arriver, parce que je crois pas que le capitalisme va continuer comme ça les prochains 20 ans, moi je suis...
Bye bye le théâtre et bonjour
j'espère
la...
J'espère que j'ai le courage d'être dans la rue.
Thomas Ostermayer, Retour à Reims se joue donc en ce moment à Paris au Théâtre de la Ville Espace Cardin jusqu'à la mi-février. Ce sera ensuite à Lausanne et puis ensuite en tournée jusqu'à mai.
On va à Strasbourg, à Lyon, à Marseille et dans plusieurs autres villes.
Donc il y aura le temps pour le voir. Et on peut encore voir La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez dans une traduction d'Olivier Cadio en ce moment à la Comédie Française. Et ce sera ça aussi repris.
Tout à fait, tout à la rentrée repris. Prochaine.
Bravo.
In 1600, I was a darky. Until 1865, a slave. In 1900, I was a nigger. Or at least that was my name. In 1960, I was a negro. And then Brother Malcolm came along.
Ce soir au son, c'était Eric Boisset à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission comme vous voulez sur franceculture.fr ainsi que celles qui l'ont précédée. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Marianne Chasseur et Jeanne Aléos qui pensent et préparent cette émission avec moi. Dans un instant, vous retrouvez le journal. Très belle soirée, très bon week-end sur France Culture.
Et on écoute Gil Scott-Heron.
Et on écoute Gil Scott-Heron, évidemment.
Things were changing, things were getting better, but things were not together. With Malcolm as our leader, we learned and thought we had learned. Things were better, things were changing, but things were not together. And now it is your turn. We are tired of praying and marching and thinking and learning. Brothers want to start cutting and shooting and stealing and burning. You are 300 years ahead in equality. But next summer may be too late to look back.